À Paris, Roger Mortimer, un jour qu'il passait dans le quartier du Temple, accompagné seulement de Holspé et Ogle, fut frôlé par un bloc de pierre tombé d'un édifice en construction. Il dut de n'être pas écrasé au bruit que fut le bloc en heurtant un ai de l'échafaudage. Il ne vit là qu'un banal accident de rue. Mais 3 jours plus tard, comme il sortait de chez Robert d'Artois, une échelle s'abattit devant son cheval. Mortimer alla s'en entretenir avec Ptolémée, qui connaissait son Paris secret mieux que personne. Le Siennois fit venir l'un des chefs de compagnons maçons du Temple, qui avait gardé leur franchise en dépit de la dispersion des chevaliers de l'ordre. Et les attentats contre Mortimer cessèrent. Du haut des échafaudages, on adressait même de grands saluts, bonnets ôtés, au seigneur anglais vêtu de noir dès qu'on l'apercevait. Toutefois, Mortimer prit l'habitude d'être plus fortement escorté et de faire éprouver son vin avec une corne de narval, précaution contre le poison. Les truands qui vivaient accrochés à la bourse de Robert d'Artois furent priés d'ouvrir les yeux et les oreilles. Les menaces qui environnaient Mortimer ne firent que rendre plus intense l'amour que la reine Isabelle lui portait. Et puis, brusquement, au début du mois d'août, un peu avant le temps prévu pour l'hommage anglais, Monseigneur de Valois, si fortement installé au pouvoir qu'on l'appelait communément le second roi, s'écroula brusquement à 55 ans. Depuis plusieurs semaines, il était fort coléreux et s'irritait de tout. Particulièrement, une grande rage l'avait saisi au reçu d'une proposition faite par le roi Édouard de marier leurs plus jeunes enfants, Louis de Valois et Jeanne d'Angleterre, qui avoisinaient leurs 7 ans. Édouard comprenait-il enfin la bévue qu'il avait commise 2 ans plus tôt en rompant les négociations sur le mariage de son fils aîné, et pensait-il de la sorte ramener Valois dans son jeu? Monseigneur Charles, par une réaction singulière, prit cette offre pour une seconde insulte et se mit en telle fureur qu'il brisa tous les objets de sa table. En même temps, il montrait une grande fébrilité dans ses travaux de gouvernement, s'impatientait des lenteurs du Parlement à rendre les arrêts, disputait avec Mills de Noyers des calculs fournis par la Chambre des comptes. Ensuite, il se plaignait de la fatigue que toutes ces tâches lui causaient. Un matin qu'il était en conseil et qu'il allait paraffer un acte, il laissa choir la plume d'oie qu'on lui tendait et qui balafra d'encre bleue la cotte bleue dont il était vêtu. Sa main pendait auprès de sa jambe et ses doigts étaient devenus de pierre. Il fut surpris du silence qui se faisait autour de lui et ne se rendit pas compte qu'il tombait de son siège. On le releva, les yeux bloqués vers la gauche, dans le haut des orbites, la bouche tordue du même côté, et la conscience partie. Il avait la face rouge, presque violette, et l'on s'empressa de quérir un physicien pour le saigner. Comme l'avait été 11 ans plus tôt son frère Philippe le Bel, il venait d'être frappé à la tête dans les rouages mystérieux du vouloir. On crut qu'il passait, et à son hôtel on le transporta. L'énorme maisonnée prit la ferment éplorée du deuil. Pourtant, après quelques jours, où il parut présent à la vie plutôt par le souffle que par la pensée, il reprit à demi apparence d'exister. La parole lui était revenue, mais hésitante, mal articulée, butant sur certains mots, sans plus rien de cette redondance et de cette autorité qui la marquait auparavant. La jambe droite n'obéissait pas, ni la main qui avait lâché la plume d'oie. Immobile dans un siège, accablé de chaleur sous les couvertures dont on croyait bon de l'étouffer, l'ex-roi d'Aragon, l'ex-empereur de Constantinople, le comte de Romagne, le père de France perpétuellement candidat à l'Empire d'Allemagne, le dominateur de Florence, le vainqueur d'Aquitaine, le rassembleur des croisés, mesuraient soudain que tous les honneurs qu'un homme peut recueillir ne sont plus rien lorsque s'installe le déshonneur du corps. Lui qui n'avait eu, et depuis son enfance, que l'anxiété de conquérir les biens de la terre, se découvrit soudain d'autres angoisses. Il exigea d'être conduit en son château du Perret, près de Rambouillet, où il n'allait guère, et qui brusquement lui devint cher par un de ces bizarres attraits qui viennent aux malades pour des lieux où ils s'imaginent pouvoir recouvrer la santé. L'identité de son mal avec celui qui avait abattu son frère aîné obsédait son cerveau dont l'énergie était diminuée mais non point la clarté.